Il y a une richesse incroyable quand, dans la présence de Dieu, on ouvre sa parole et on met notre foi en lui et on découvre qu'il y a à côté de nous un frère, une sœur qui également, il a la foi et il y a quelque chose de plus. Quand on ouvre notre parole dans notre chambre tout seul, c'est déjà très bien, le Seigneur peut nous bénir, mais il y a une bénédiction encore davantage quand on le fait avec des frères et des sœurs. Vous le croyez ça? Amen. C'est vrai ou pas? Ben oui, c'est vrai, c'est la parole qui nous le dit. C'est le psaume combien? 133. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et je vais directement à la conclusion de cette vérité. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voulez la bénédiction? Vous voulez la vie pour l'éternité? Alors, il faut vouloir réaliser que c'est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. On va ouvrir la parole dans Néhémie, continuer notre étude de ce livre et voir surtout les attitudes de cœur qui plaisent à Dieu, qui nous permettent de grandir face à ce modèle, cet homme de foi qui est Néhémie. Nous en sommes arrivés au chapitre 10. On a vu un Néhémie qui est un homme d'action, qui a reconstruit la muraille, qui a donné un élan au peuple d'Israël dans son époque. On a vu un Esdras qui était là, qui lui a donné un élan pour que ce peuple s'attache à la parole de Dieu, que ce peuple revienne à la loi, revienne à cette parole vivante que le Seigneur nous a laissée. Et on a vu qu'il y avait comme une alliance qui avait été faite au travers d'Abraham, au travers de Moïse. Et le peuple a voulu revenir dans cette alliance, renouveler l'alliance envers son Dieu et envers la parole de Dieu. Mais ce matin, je voudrais être très pratique parce que quand on fait une alliance, quel que soit le domaine d'ailleurs, il y a des conséquences à l'alliance. C'est comme un contrat que l'on signe, mais dans le contrat, on s'engage à faire certaines choses de manière bien précise. Et on voit dans ce peuple d'Israël à cette époque que c'est exactement ce qui s'est passé. Au chapitre 10 de Néhémie, on voit toutes sortes de personnes qui ont signé le traité de renouveler l'alliance. Voici ceux qui apposèrent leur sceau. Donc toutes sortes de personnes sont venues signer. Et Néhémie, le premier à signer, c'est Néhémie qui montre l'exemple, le gouverneur, fils de Hakalia, Sédésias, Séraja, Azaria, Jérémie, etc. Je ne vais pas lire toutes les listes. Vous le ferez à la maison. On peut se dire, mais où c'est qu'il est passé Esdras? Parce que quand même, il a été utilisé par Dieu et on ne le voit pas qui signe. Est-ce qu'il veut pas, lui, s'engager à renouveler l'alliance? Esdras, simplement, il est représenté par son papa. Là, c'est les chefs de famille qui ont signé. Son papa, il s'appelle Seraya. Et c'est le troisième à signer. Donc Esdras, il y est, hein, quand même. Mais voilà, représenté par le chef de la maison, son papa. Et Néhémie, Esdras et toutes ces personnes, les principaux du peuple, sont là pour rentrer dans l'alliance. Et dans le verset 28 jusqu'à la fin du chapitre 10, on voit qu'il y a des éléments pratiques, des conséquences de l'alliance. Parce que quand on fait une alliance avec Dieu, il y a des conséquences pratiques dans nos vies. Et ce sont des engagements auxquels on adhère. Mais c'est pour la bénédiction de nos familles, c'est pour la bénédiction de nos propres vies, de nos cœurs, parce que quand le Seigneur s'engage envers nous, il y a plus d'intérêt pour nous, on y gagne plus que le Seigneur il y gagne. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous avez apporté au Seigneur finalement, qu'il ne vous a déjà donné? Mais pas grand-chose, hein? Il nous a tout donné. Mais quand on fait alliance avec lui, on reconnaît qui nous a déjà tout donné, mais quand même, on veut participer à la mesure de notre foi, à la mesure de nos possibilités, de nos talents, etc. Mais on veut servir le Seigneur. C'est comme dans un mariage, il y a un avant et il y a un après. On peut pas vivre avant le mariage de la même façon qu'on vit après le mariage. Sinon, le mariage, il veut rien dire. On est d'accord. On est dans une époque aujourd'hui où ça, c'est un petit peu remis en question, mais la parole de Dieu est claire. Le mariage, c'est une alliance, c'est un vœu qu'on fait l'un envers l'autre. Et après le mariage, il y a la vie qui est différente, la façon de vivre est différente, les engagements sont différents, et le Seigneur est celui qui veut que nous fassions de même envers lui. Alors on voit trois aspects tout très simples. On va commencer à lire le verset 28, et puis on va voir ces trois aspects qui nous sont donnés dans les versets suivants. La liste des personnes qui ont signé, etc. Et le verset 28 nous dit ceci: le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu, donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Amen. Et au partir du verset 30, on voit les éléments pratiques qui sont là. Mais déjà, il y a cet engagement, il y a ce serment qui est fait, il y a ces vœux qui sont prononcés, qui sont même écrits, et derrière lesquels toutes les personnes sont en train de signer. Vous savez combien de fois on a fait des vœux devant Dieu? Peut-être à la fin d'une prédication pour répondre à un appel, ou dans un moment personnel alors que Dieu nous parle, on fait comme un vœu, on dit « Seigneur, maintenant je vais m'engager à ceci, à cela ». Vous savez que des fois c'est bien d'écrire ce à quoi on s'engage, parce que des fois on a la mémoire qui est courte. Des fois on s'engage, on répond à une prédication, « Seigneur, maintenant je me décide à te prier tous les jours ». Puis au bout de 3 jours, on a déjà oublié le vœu qu'on vient de faire. Et des fois c'est bien d'écrire les paroles que le Seigneur marque sur nos cœurs, de les écrire et puis de temps en temps de relire ça, et de se dire « Mais après tout, je me suis engagé ». Et je veux être sérieux. On voit dans les psaumes, on voit avec Salomon, dans les proverbes, on voit qu'il faut faire attention aux vœux que l'on prononce devant Dieu. Attention, je ne parle pas des bons vœux à la fin de l'année, hein, c'est pas ça dont je parle. C'est ces prières, ces résolutions, ces engagements que l'on prononce devant Dieu en disant « Seigneur, je veux faire des progrès avec toi ». Bien sûr qu'il faut peser les paroles que l'on dit devant Dieu, mais c'est bon de le faire. Parce que quand on s'engage de cette manière, le Seigneur, il nous aide à grandir, à progresser. Et le premier aspect que l'on voit au verset 30, c'est cette pensée qui est là. « Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, etc. » C'était la coutume pour le peuple d'Israël. Bien sûr, je ne veux pas rentrer dans l'aspect de l'aspect matériel, l'aspect de se mélanger à des populations, les juifs, il fallait qu'ils se marient entre juifs. C'est pas cet aspect-là que je veux parler. Je veux parler plutôt, pour nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, du fait de marcher dans la sanctification, le fait de nous mettre à part. Jésus lui-même, il a parlé de se séparer, mais il l'a dit de manière très équilibrée. Parce que des fois, on peut vouloir se séparer des gens du monde en n'ayant plus aucun contact avec les gens du monde. Mais c'est pas du tout l'enseignement de la parole de Dieu. Mais des fois, on veut tellement être près des gens du monde qu'on n'a aucune différence. Et la Bible nous dit, attention, ne vous conformez pas au siècle présent. Il faut pas se conformer, mais il faut pas fuir. Il faut pas fuir les personnes du siècle présent. Il faut fuir la mentalité. Mais il faut être près de tous ceux qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Et ça nous parle donc de cette sanctification. On pourrait lire ensemble dans Jean chapitre 17, une des dernières prières du Seigneur sur la terre. C'est justement ce qu'il nous dit. Et ce qui est intéressant dans cette prière, c'est qu'à plusieurs reprises, il parle du fait qu'il a donné la parole. Le peuple d'Israël, à ce moment-là de l'histoire, il vient de redécouvrir la parole de Dieu. Et il y a des choses qui viennent comme conséquences. Après cette alliance par rapport à cette parole de Dieu, il y a des conséquences. Et Jésus lui-même nous dit, voilà, j'ai accompli mon ministère, je leur ai donné la parole. Et regardez les conséquences dans lesquelles il rentre. Dans Jean chapitre 17 et le verset 8, on peut commencer à partir du verset 8. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Première chose, recevoir la parole de Dieu et croire que Jésus est l'envoyé du ciel et l'envoyé de Dieu le Père. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, ils sont dans le monde. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, Judas, afin que l'écriture fût accomplie. Maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit ces choses? afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Une autre conséquence de la parole de Dieu, c'est une joie parfaite. Comment est votre joie ce matin ? On pourrait s'arrêter sur ça ? Est-ce que votre joie, vous pensez qu'elle est parfaite ? Est-ce que votre joie, vous pensez qu'elle peut mieux faire ? Vous savez, des fois, on avait les carnets de notes. Des fois, c'était marqué TB, très bien. Puis des fois, c'était peut mieux faire. Passable. Comment est ma joie ? En tout cas, je vois que du point de vue de Dieu, il veut, au travers de sa parole, me donner une joie parfaite. Et si ma joie n'est pas parfaite, c'est que peut-être j'ai besoin de revenir davantage à sa parole. Je ne te prie pas de les ôter du monde, au verset 15, je te prie de les préserver du mal. J'ai oublié le verset 14. Je leur ai donné ta parole et la conséquence, c'est que le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Quand on prend et qu'on chérit et qu'on serre la parole de Dieu contre notre cœur, oui, il y a une joie parfaite, mais ça produit pas forcément la joie parmi ceux qui nous entourent. Ça produit parfois l'hostilité, ça produit parfois la moquerie, ça produit parfois la persécution, ça produit toutes sortes de sentiments autour de nous, mais le Seigneur, lui, nous a promis qu'il y aurait une joie parfaite. La joie du Seigneur sera votre force, vous vous souvenez cette parole, et que ça soit une réalité encore, alors que nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur. Mais moi j'aime ce verset 15 qui nous dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde ». Seigneur, mes disciples là qui vont rester dans le monde, mes disciples qui vont garder la parole, je te prie pas de les enlever du monde, je te prie de les préserver du mal. Et on peut être au milieu de la persécution, on peut être comme Étienne en train de recevoir des pierres sur notre corps parce que les gens autour de nous sont hostiles, c'est quelque chose de terrible, et pourtant être dans la paix. Expliquez-moi comment Étienne qui était en train de se faire lapider s'est endormi paisiblement. Comment c'est possible ? Vous savez ce que c'est la lapidation ? Pas besoin de faire un grand dessin, mais c'est horrible comme spectacle. Et pourtant cet homme, il s'endort paisiblement parce que il a vu la gloire du Seigneur, parce qu'il a vu Jésus dans le ciel, assis à la droite de Dieu. Et plaise à Dieu que nous puissions encore vivre jour après jour dans cette dimension de voir Jésus qui est sur le trône, dans le ciel, qui domine toutes les situations. Et même s'il y a des moments difficiles dans nos vies, nous sommes dans la paix, nous sommes dans une joie parfaite, parce que nous avons un Seigneur qui nous préserve du mal et qui ne permet pas que l'ennemi s'attaque à l'intérieur de nos vies. Même s'il s'attaque à l'extérieur, c'est pas grave, tant que notre cœur en lui-même est gardé et protégé par sa présence. Il y a un homme, un jour, qui a témoigné avec beaucoup de satisfaction et il était fier, vraiment. Il a témoigné dans une réunion, c'était une réunion où prêchait le pasteur Moody, pour ceux qui connaissent, et il était en train d'expliquer qu'il avait vécu pendant 5 ans sur le mont de la Transfiguration. Il était en Israël et il a vécu une expérience comme Jésus a vécu. Et voilà de quoi il se glorifiait. Alors Moody, il lui a demandé, d'accord, c'est très bien votre expérience, combien est-ce que vous avez conduit de personnes à Christ après ces 5 ans ? Et puis le monsieur est réfléchi, il dit, je sais pas trop. Et le Moody continue, est-ce que vous avez gagné au moins une personne à Christ après avoir passé 5 ans sur le mont de la Transfiguration ? Et le monsieur dit, en tout cas, je sais pas. À ma connaissance, je crois pas. Alors le monsieur dit, pour nous, ça nous intéresse pas ce genre d'expérience mystique au sommet des montagnes, parce que quand un homme s'élève vraiment vers Dieu, alors il est obligé de descendre et de sauver des perdus par la suite. Sinon, il s'est pas approché de Dieu. Sinon, il a fait quelque chose de mystique. Mais quand on s'approche de la présence de Dieu, on est obligé après de, tellement on est rempli de cette source d'eau vive qu'on a chanté tout à l'heure. Quand on est rempli, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. C'est un principe biblique, c'est un principe physique, mais c'est un principe aussi spirituel. Et le Seigneur veut que nous vivions des temps dans sa présence, oui, pour nous remplir. On a le droit de dire, Seigneur, remplis-nous. Mais remplis-moi pour que après je puisse me déverser. Et la sanctification qui nous isole du monde, qui nous détourne de la mission, eh ben c'est pas la bonne sanctification. Ça c'est du mysticisme. Le Seigneur nous invite à nous approcher de lui pour être rempli et puis après pour partir dans la moisson qui est tellement grande. Regardez dans Matthieu au chapitre 13, Matthieu chapitre 13 verset 47. Dans l'enseignement du Seigneur Jésus, on voit qu'il parle aussi de séparation dans un autre contexte. Matthieu chapitre 13 verset 47, c'est un chapitre où Jésus compare le royaume de Dieu à beaucoup de choses, plusieurs paraboles qui sont données. Et on en lit seulement une. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Et on peut dire Amen parce que c'est la parole de Dieu. Les anges viendront à la fin du monde pour séparer les méchants d'avec les bons. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont plus méchants que d'autres ? Oui. Mais devant Dieu, est-ce qu'il y a un homme qui peut dire « je suis bon » ? À part Jésus, c'est vrai, qui est le seul qui peut dire « Je n'ai jamais péché, je n'ai jamais menti. » Et quel homme pourrait se lever et dire « Moi, je suis parfaitement bon ?» Il n'y en a aucun. Et comment les anges vont faire pour ne pas se tromper, à savoir, est-ce que celui-là, il est assez bon ? Est-ce que celui-là, il a fait assez de bonnes œuvres ? Ou est-ce que celui-là, il est allé assez de fois à l'église ? Comment les anges vont faire ? Vous savez comment ils vont faire ? Ils vont se tourner vers Jésus, ils vont dire « Est-ce que Jésus, c'est ton enfant ? Est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. » C'est ça qu'ils vont faire. Vous êtes d'accord ? Vous me paraissez bien calme et silencieux. Mais c'est ça, exactement ce qui va se passer. Les anges ne vont pas regarder le montant de bonnes œuvres que les uns ou les autres auront fait. Ils vont regarder si dans le cœur de ces personnes, il y a la trace, la marque, l'empreinte du Seigneur Jésus, s'ils sont devenus des enfants du Seigneur, comment est-ce que la Bible nous dit que nous devenons enfants de Dieu ? Est-ce que vous le savez ? Vous lisez Jean chapitre 1er et vous voyez déjà une réponse, il y en a plusieurs, mais c'est toujours la même pensée. Quand on reçoit la lumière, à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, la lumière, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Quelqu'un qui est né de Dieu, il est sûr d'être placé dans la catégorie des bons, même s'il a beaucoup de défauts encore, même s'il reste du travail à faire. Et si le Seigneur ne permet pas de revenir dans sa présence dès que l'instant où on se convertit, c'est parce qu'il veut encore nous transformer. Sinon, au moment de la conversion, il nous prendra avec lui tout de suite. S'il n'y avait rien d'autre à faire. Mais parce qu'il sait qu'il y a encore du travail, le Seigneur nous montre une partie de notre vie qui est pécheresse, mais le Seigneur ne nous montre pas tout, parce que sinon on serait désespéré. Mais lui, il le voit, il sait tous les péchés qu'on va faire encore. Mais il nous aime tel que nous sommes. Et il nous aime parce qu'il nous voit aussi de la manière dont on va être changé, transformé dans sa présence. Il y a une jeune fille qui a accepté Christ et qui voulait se joindre à une église. Et donc elle a rencontré, c'était un ancien qui était là, avec qui elle a parlé pour un petit peu expliquer son témoignage. Et puis il lui pose des questions, cet ancien, et lui dit « Est-ce que tu as réalisé que tu étais une pécheresse avant de recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur ?» Alors elle demande « Oui, elle répond « Oui, monsieur, j'ai bien réalisé ça. » Et l'ancien lui dit « Mais est-ce que tu es toujours pécheresse ?» Alors là, elle hésite. Et elle lui dit « Honnêtement, pour vous dire la vérité, je sens que je suis une plus grande pécheresse que jamais. » Alors quel changement est-ce que tu as vécu dans ta vie ? Alors je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais ce que je sais, c'est qu'avant j'étais une pécheresse qui courait après le péché, maintenant je suis une pécheresse qui fuit loin du péché. Et du coup, l'ancien, il a validé sa candidature. Et dans la suite, cette jeune fille a manifesté la vie de Jésus-Christ autour d'elle. Elle a manifesté qu'elle avait vraiment compris ce que c'était la sanctification. C'est pas de dire « je ne suis plus un pécheur, je suis le plus fort, je suis le meilleur ». C'est de dire « par la grâce de Dieu, il m'a sauvé dans mon péché ». Et maintenant, je veux marcher de plus en plus loin du péché. Je veux me détourner de ça. Et la repentance, c'est se détourner du péché pour se concentrer sur le Seigneur Jésus. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais laissons la parole de Dieu nous sanctifier. On l'a pas lu, mais ça venait juste après dans le chapitre 17 qu'on a pris tout à l'heure. Jésus a dit cette parole, sanctifie-les par quoi? Par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, on pourrait le résumer comme ça. Quand on lit la parole de Dieu avec un cœur sincère et dévoué, le Seigneur sanctifie nos vies. Il nous éclaire, il nous montre la voie que nous devons suivre, il nous permet d'avancer, il nous nourrit, il nous fortifie, etc., etc. On va revenir à Néhémie. Après la sanctification, regardez ce qui se passe pour ce peuple. Néhémie chapitre 10, verset 31. Il s'engage à ne rien acheter le jour du sabbat et les jours des fêtes des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou des denrées quelconques et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Amen. En gros, il se réengage à observer le sabbat. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, est-ce que dans l'alliance renouvelée que nous faisons avec le Seigneur, nous devons faire la même chose? Il y a des courants de pensée qui croient qu'il faut toujours honorer Dieu le samedi. Le sabbat, c'est le samedi, hein. Dans la Bible, c'est toujours le samedi, le sabbat. Et il y en a donc qui disent, il faut que le culte il soit le samedi, pas le dimanche. Et il y en a d'autres qui disent, non, maintenant on est dans la nouvelle alliance, il faut que le sabbat, ça soit le dimanche. Et quelle est la bonne réponse? Tous les jours. Eh ben oui, pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous empêche de tous les jours avoir nos pensées dirigées vers le Seigneur? Bien sûr, à le faire avec équilibre. C'est-à-dire quand je suis au travail, je vais pas me mettre à genoux pour prier, pour faire le culte ou sortir la guitare, alors que je dois faire d'autres choses, on est d'accord. Mais ça n'empêche pas que dans mon cœur, je suis un adorateur du Seigneur en esprit et en vérité, jour après jour, du lundi au dimanche. Et le Seigneur nous invite à vivre de cette manière-là. Mais c'est intéressant de voir qu'est-ce que Jésus, lui, il dit du sabbat, justement. Et regardez dans Matthieu 12. Parce qu'on peut vite tomber dans des exigences qui sont seulement des préceptes et des traditions humaines. Et on pourrait dire, même à des personnes qui travaillent le dimanche, que c'est pas bien, qu'il faut qu'ils arrêtent. Bien sûr que c'est bien de consacrer un jour particulier à louer le Seigneur, mais il y a certains métiers qui exigent qu'on travaille le dimanche. Imaginez s'il n'y avait aucun docteur qui travaillait jamais le dimanche et que vous vous blessez le dimanche. Souvenez-vous de l'homme qui avait une main sèche et ça tombait quand ça? Ça tombait le jour d'un sabbat. Et ce qui embêtait les personnes, les pharisiens, ce qui les questionnait, c'est de savoir est-ce que Jésus allait guérir le jour du sabbat. Au lieu de se dire, est-ce qu'on va assister à la gloire de Dieu aujourd'hui, il se disait, est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose à lui dire, à lui. Et le Seigneur nous invite à avoir cette pensée de bonté et générosité. Mais regardez dans Matthieu chapitre 12, verset 1er, ce que Jésus enseigne sur le sabbat. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Et regardez bien ce qu'il est dit, « car le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Amen. Jésus est le maître du sabbat. Et en plus, quand on étudie en détail, on va pas le faire ce matin, mais ce que reprochent les pharisiens, c'est pas de respecter la loi. Ils reprochent d'aller plus loin que ce que la loi demandait encore. Ils reprochent qu'ils font pas cette pensée-là d'aller plus loin encore. Parce que les gens avaient parfaitement le droit de manger les quelques feuilles qui ramassaient, les quelques épis de blé qui ramassaient, les disciples. Mais on voit que derrière tout cela, c'est pas un esprit de grâce et de bénédiction qui les anime, mais un esprit de miséricorde, mais c'est un esprit de condamnation. Et si pour certaines choses auxquelles je tiens dans ma vie, je suis quelqu'un qui condamne les autres parce qu'ils ne le font pas, alors laissez-moi vous dire que même si la chose que je fais elle est bonne, l'état d'esprit dans lequel je fais, il n'est pas bon. Et je dois venir au pied de mon Seigneur et dire, Seigneur, toi tu es le maître et je veux me soumettre à ta volonté. Et je veux être rempli de cette miséricorde parce que c'est ce à quoi Dieu prend plaisir. Je prends plaisir à la miséricorde, je prends plaisir à la compassion, je prends plaisir à l'amour fraternel, plus qu'à toutes les traditions et les préceptes humains que l'on peut faire par-dessus, qui sont pas forcément mauvais en soi, mais qui doivent être faits dans un bon état d'esprit. Voilà ce qui nous informe le Seigneur par rapport au sabbat. Dans Colossiens chapitre 2 verset 16, je le lis pour vous. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, ou d'un nouveau mois, ou d'un sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, elle est en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus important, c'est la personne de Jésus et la façon dont dans ma vie, je glorifie le nom du Seigneur. Quel que soit ce que je fais, est-ce que je glorifie le nom du Seigneur? La réalité de ces choses-là se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Troisième chose, troisième et dernière chose, dans verset 32 de Néhémie, chapitre 10, voilà ce que nous lisons. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de sicle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes, des fêtes, pour des choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Amen. On voit que là, il y a toute une organisation qui se met en branle pour pouvoir pourvoir justement aux besoins de la maison de Dieu, de tout ce qui se passait dans la maison de Dieu. Parce qu'ils sont dans cette dimension-là, ils ont reconstruit la muraille, c'est super, la ville est aussi restaurée, le temple a été restauré quelques années avant, mais maintenant que tout ça est fait, que leurs cœurs aussi sont renouvelés, il faut se mettre à l'œuvre pour la maison de Dieu. Amen. C'est ce que nous voyons dans ce chapitre 10 de Néhémie. Alors, ça passe par toutes sortes de choses qui, pour nous paraissent un peu obscures. Mais tout ça, ça concerne les sacrifices et tout ce qui se faisait dans le temple. Mais la question que je voudrais vous poser ce matin, c'est qu'est-ce que c'est, par exemple, pour nous, le bois que l'on doit amener pour qu'il soit brûlé sur l'autel aujourd'hui? Est-ce que on va faire une pièce pour stocker du bois de chauffage et pour faire des sacrifices comme s'ils le faisaient à l'époque? Parce que le bois qui leur servait à l'époque, c'était simplement pour ça. Il y avait un autel au milieu sur le parvis du temple qui servait pour tous les sacrifices. Et donc, il fallait que des gens amènent du bois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit faire la même chose? La même chose, non. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, ça se traduit? Quel est le bois qui nous permet de brûler le sacrifice de nos vies? La croix. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on prenne la croix, qu'on fasse quelque chose de particulier avec l'objet, c'est pas ça. Mais c'est dans notre cœur. Quel est le sacrifice que Dieu veut que l'on fasse aujourd'hui? Le sacrifice de notre vie. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, pas par n'importe quoi, par les compassions de Dieu, et combien elles sont grandes, à offrir vos vies comme des sacrifices, vivants, saints et agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On veut offrir le plus beau culte au Seigneur, c'est le culte de notre vie. Et le bois que l'on doit apporter, il n'y a rien de physique à faire, c'est quelque chose de spirituel où je réalise, comme on l'a fait tout à l'heure au moment de la Sainte-Cène, quand on réalise de manière particulière l'œuvre que Jésus a accomplie sur le bois du calvaire. Est-ce que ce matin et tous les jours de votre vie, vous êtes prêt à rapporter ce bois devant le Seigneur? Seigneur, je veux me souvenir de ce que tu as fait. Non, moi je vais attendre dimanche au moment de la Sainte-Cène pour me souvenir de la croix. Non. Tous les jours. Et peut-être même plusieurs fois par jour, quand je réalise la grâce de Dieu, je veux me souvenir de ce qu'il a fait pour moi. Quand c'est la dernière fois? J'aime bien me poser la question comme ça. Quand c'est la dernière fois que vous avez pleuré face à l'œuvre de Jésus à la croix? Je ne parle pas des larmes forcément, mais le cœur qui est brisé. Est-ce qu'on se contente du moment de la conversion? Ou est-ce qu'il y a des moments où on réfléchit de manière particulière? Quelqu'un me disait cette semaine qu'il a revu le film La Passion du Christ. Et c'est vrai que quand on regarde des films comme ça, bien sûr c'est des images difficiles, mais c'est la réalité de ce qui s'est passé. Et ça nous montre à quel point le Seigneur nous a aimés. Et ça nous permet à nous de nous poser les bonnes questions aussi. Face à tout l'amour que Jésus a déployé, est-ce que moi je vais aussi déployer tout ce que je peux pour le servir? Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol, les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Oui, il y a des personnes qui amènent des fruits, mais c'est pas ça, cela que le Seigneur veut. Merci à tous ceux qui nous donnent cela, ça nous permet de récolter quelques sous pour les jeunes, pour diminuer au moment des camps et tout ça. Mais là, les fruits en question dont le Seigneur nous parle et qu'il attend de nous, ce sont quoi? C'est tout simplement le fruit de l'Esprit. Est-ce que vous pensez que vous êtes déjà arrivé à maturité par rapport aux fruits de l'esprit? Je suis assez patient, je suis plein de maîtrise de moi-même, donc j'ai plus rien à apprendre du Seigneur. Quand on se regarde dans la glace, ou quand on demande à notre épouse ou notre époux, on se rend compte qu'il y a encore des progrès à faire. N'allez pas voir mon épouse, hein? Vous pouvez le faire quand même, mais elle vous confirmera que c'est vrai. On a tous des progrès à faire, mais le Seigneur veut que nous puissions lui amener ce fruit de l'Esprit. C'est ça qu'il va agréer, plus que toutes les choses que nous pouvons faire d'autres. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Combien le Seigneur attend que nous puissions produire cela. Et quand on lit... Je me souviens de ce verset, mais il est dit, « Celui qui demeure en moi, Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte quelques fruits. » Beaucoup de fruits. Il ne faut pas se contenter de faire quelques petits progrès. « Seigneur, je veux porter beaucoup de fruits et les déposer devant toi et réaliser que c'est toi, Seigneur, qui me donne de vivre cette chose-là dans ta présence, de vivre cette réalité que tu es le Dieu. » qui m'aide à grandir et grandir toujours plus. Je termine avec ces derniers versets. Ils s'engagèrent aussi à porter, au verset 37, à apporter au sacrificateur dans la chambre de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte, nos offrandes, des fruits, de tous les arbres, du moût, de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons, etc., etc. On voit que il y a eu cet engagement par rapport au fait de se séparer, par rapport au fait de se mettre à part pour Dieu. Il y a eu cet engagement par rapport au sabbat aussi, qui a été renouvelé, et nous comprenons, nous, qu'il faut nous réengager par rapport à Jésus-Christ. Il y avait aussi cet aspect, et le Seigneur m'en voudrait si je n'en parlais pas ce matin, même si en France on est frileux par rapport à ce sujet, le sujet de la dîme et des offrandes. Et pourtant, nous voyons que ça fait partie de l'engagement que ces personnes ont choisi de faire. Maintenant, ce matin, vous comprenez bien que je ne vais pas venir voir combien vous mettez dans la corbeille, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, mais je voudrais simplement vous rappeler de quelle manière Dieu y considère ce moment de dîme et d'offrande. Avant de rentrer dans un texte, dernier texte, dans Marc chapitre 12, je voudrais vous remercier déjà pour la fidélité que vous manifestez à ce niveau-là. Et je veux vous encourager parce que, par la grâce de Dieu, hier il y avait une réunion du conseil d'administration et on a discuté, donc on a fait un bilan financier avec les trésoriers et on voit que les choses vont de mieux en mieux. Peut-être certains n'étaient pas au courant, mais ça faisait plusieurs années que Moissac était aidé par la mission intérieure de Midi-Pyrénées, c'est-à-dire toutes les églises de Midi-Pyrénées donne à une caisse pour pouvoir aider les églises en difficulté. Et Moissac faisait partie des églises en difficulté. Et donc, ça faisait plusieurs années que, pour pouvoir vivre, faire tourner l'église de manière pratique, on avait besoin de l'aide d'autres églises. Donc, je parle vraiment d'aspects très pratiques, hein, ce matin. Mais c'est important parce que des fois, on fait un décalage entre la vie spirituelle et puis notre porte-monnaie. Mais c'est lié. Et hier, par la grâce de Dieu, avec les chiffres que l'on a, le conseil d'administration, ensemble, on a pris la décision de demander que l'aide s'arrête totalement. Ça veut dire qu'on redevient totalement autonome. Est-ce que ça, c'est pas une grâce du Seigneur? Mais plus que ça, parce que ça, c'est bien en soi, mais déjà, on commence à aider à nouveau d'autres églises nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est encore meilleur. C'est-à-dire que nous, on était dans la situation de la personne aidée, mais maintenant, parce que le Seigneur agit, et parce que chacun d'entre vous est fidèle dans ce domaine-là, eh bien, le Seigneur nous permet de nous devenir des personnes qui aident. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais je tenais à vous remercier parce que si cela est possible, c'est parce que chacun est fidèle dans ce domaine-là. Voilà pourquoi je voudrais simplement vous rappeler ce texte de Marc 12, 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Je vais pas le faire tout à l'heure, hein. Parce que c'est Jésus qui peut le faire, pas moi. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Mais il vint aussi une pauvre veuve. Elle mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ce texte, il est clair, il nous montre que ce que Dieu attend de nous, c'est pas de mettre des quantités, mais c'est mettre quelque chose qui a l'importance dans notre cœur. C'est la façon dont je donne dans mon cœur qui est importante. Si je donne 2000 euros, mais que je le fais avec une grimace, ben ça vaut rien, ça vaut zéro devant Dieu. Si je donne quelques euros, mais c'est de tout mon cœur, Seigneur, tu vois, j'ai sué pour gagner ces euros, mais je te les donne parce que je sais que quand on te donne quelque chose, toi tu nous bénis derrière. Ben vous allez voir que le Seigneur va tenir parole. Et je peux vous le dire, c'est pas parce que je suis pasteur que je m'abstiens de ces choses, mais j'ai vu la bénédiction de Dieu quand j'ai fait passer le royaume de Dieu avant. Vous pouvez aller voir ma femme aussi pour lui demander ça, parce que c'est ensemble qu'on le décide, et on a décidé de mettre le Seigneur en premier, même dans l'aspect financier, et on a vu la bénédiction du Seigneur. Est-ce que nous voulons nous contenter d'une alliance renouvelée, spirituelle et très mystique, rester sur le monde de la transfiguration le dimanche matin? Ou est-ce que nous voulons être aussi très pratiques et avancer dans les conséquences de l'alliance? Je voudrais qu'on puisse prendre ce chant pour terminer.